Bien, merci d'être venus nombreux écouter, présenter un livre passionnant. Un livre passionnant qui constitue un regard sur l'art, sur les arts, en perspective sur l'art contemporain, avec une focalisation sur l'art contemporain. Fabienne Brugère est professeure à l'université Bordeaux 3 Michel de Montaigne. Elle s'est spécialisée depuis assez longtemps en esthétique, mais pas seulement. Elle mène aussi des travaux sur le care, la sollicitude. Et elle est également directrice de collection, une collection Ligne d'art aux Presses universitaires de France et une collection Diagnostic aux éditions Le Bord de l'eau. Alors je voudrais poser une première question en amont, si je puis dire, de ce qui va concerner à proprement parler ce livre qui s'intitule « Philosophie de l'art ». Je voudrais demander à Fabienne trois choses. Pourquoi la philosophie? Pourquoi les arts? Et ensuite, pourquoi avoir mené une recherche philosophique, en particulier sur l'esthétique? Voilà.
Merci Francis pour cette présentation. Alors pourquoi la philosophie, pourquoi les arts? Ce que je pourrais dire tout d'abord, c'est que j'ai commencé à travailler finalement sur l'art. Je commencerai par là, par un biais qui est celui de la philosophie des Lumières et de la manière dont le XVIIIe siècle a pu poser à la fois la question du beau, la question du sublime, la question de la nature, la question du jugement de goût. Donc ça, c'était d'une certaine manière un travail, je dirais au départ, assez intra-philosophique. Et donc un rapport à la philosophie qui s'est vraiment enraciné dans tout un travail sur le XVIIIe siècle. Et puis ensuite, je dirais que j'ai toujours eu un regard sur l'art, ce qui veut dire un rapport à la peinture, à la sculpture et également à l'art contemporain et aux formes aussi les plus extrêmes de l'art contemporain, de telle sorte que je suis quelqu'un d'un peu hétérodoxe qui aime tout autant Titien et le Tintoret que telle installation de Louise Bourgeois ou l'Arte Povera pour donner d'autres exemples, ou Andy Warhol, donc ce qui est déjà assez iconoclaste. Et puis par ailleurs, au fur et à mesure d'une part de mon travail sur les Lumières et puis vraiment d'une pratique qui consiste à regarder, et j'ai petit à petit voulu réfléchir sur le rapport entre l'art et la philosophie. Et je crois que ce livre qui a commencé par être une commande des Presses universitaires de France qui voulait que je leur rende un manuel sur l'art. J'ai mis en fait deux conditions. La première, c'est d'avoir en quelque sorte une carte blanche et de pouvoir faire finalement quelque chose en même temps d'abordable, mais qui ne soit pas seulement un manuel au sens du dépliement des catégories philosophiques sur l'art. Et puis la deuxième condition, c'est que j'ai proposé de le faire avec l'une de mes thésards, donc Julia Pecker, qui travaille avec moi sur l'art. Et réfléchir sur le rapport entre l'art et la philosophie, ça voulait dire pour moi, mais pour Julia aussi, ça voulait dire sortir de la perspective d'un regard surplombant de la philosophie. Parce que très longtemps, la philosophie a envisagé son rapport à l'art à la fois comme la possibilité d'illustrer ces concepts philosophiques. L'art ou telle pratique artistique ou tel artiste servant précisément comme l'illustration d'un concept, par exemple sur le beau, eh bien, on allait chercher au XVIIIe siècle un siècle avant Poussin, pour précisément penser le rapport entre beauté artistique et beauté morale. Je pourrais donner bien sûr des exemples plus contemporains, mais celui-là est assez intéressant. Plus tard, là, c'est davantage dans le registre du rapport aussi au théâtre. Quand on était du côté d'une philosophie romantique, on allait chercher Shakespeare contre Racine ou Corneille, pour donner un autre exemple. Et puis, donc, l'art valait comme une illustration d'un certain nombre de doctrines ou de concepts philosophiques. Ça, c'est en quelque sorte ce qu'on voulait à tout prix éviter. Et puis, par ailleurs, on peut aussi comprendre la tradition philosophique, et cela, finalement, dès la naissance de l'intérêt pour l'art avec Platon et avec Aristote, comme une manière, finalement, de contrôler la puissance de l'art. Je vous rappelle, par exemple, que chez Platon, les artistes, finalement, sont intéressants, peuvent être admis dans la cité dès lors qu'ils sont sous la coupe des philosophes. S'ils sont sous la coupe des philosophes, eh bien, il n'y a plus aucun problème, précisément. On peut tout à fait les admettre dans la cité. Donc, il m'a semblé aussi que souvent, dans le discours philosophique, il y avait vraiment une tentative de contrôler cette puissance de l'art, parce qu'en soi, l'art est très puissant, hein, parce qu'il suscite des émotions, parce qu'il a un régime d'expressivité bien à lui, et cela dès les origines. Donc on voulait à tout prix éviter cette tentation. Et puis ensuite, j'ajouterais que dans la philosophie contemporaine, il y a eu un certain nombre, justement, déjà d'entreprises pour éviter le regard surplombant de la philosophie. Alors, je peux en citer quelques-unes dans des horizons très différents. D'un côté, dans la philosophie, dans le registre de la philosophie américaine, on pourrait citer Arthur Danteau, qui, dans l'art contemporain et la clôture de l'histoire, nous dit que finalement, de manière assez provocatrice, qu'Andy Warhol est le premier à avoir vraiment pensé la vie ordinaire à travers la référence à la société de consommation, etc. Et que d'une certaine manière, la philosophie n'a réussi après à penser la vie ordinaire dans son rapport à l'art que par l'intermédiaire précisément d'artistes comme Warhol, qui eux ont vraiment sorti une vérité, en quelque sorte une pensée de la vie ordinaire, qui bien sûr prend la forme d'un certain nombre précisément de formes justement. On pourrait aussi citer un philosophe français comme Alain Badiou, le petit manuel d'inesthétique. L'inesthétique étant précisément une tentative de défendre l'idée que l'art produit des vérités, et que produisant des vérités, eh bien, il ne doit pas être pensé finalement sous l'obédience ou la dépendance de la philosophie. Il produit lui-même des vérités. Ce qui veut dire aussi qu'il crée un certain rapport au monde et qu'il est capable précisément de dire un certain nombre de vérités sur le monde. On pourrait également citer, toujours dans le registre de la philosophie française, on pourrait citer le rapport aussi de Michel Foucault à la littérature, et le fait que dans l'histoire de la folie, eh bien, la littérature puisse valoir non pas tant comme une œuvre, mais comme une expérience. Précisément. Donc vraiment notre souci c'était vraiment celui-là, c'était de dire, voyons comment on peut penser le rapport entre l'art et la philosophie en sortant du regard surplombant que la philosophie peut avoir sur l'art, ce qui veut dire de manière assez radicale que l'art pense. Et donc c'est reconnaître fondamentalement qu'il existe une pensée artistique. Et je crois que quand on dit qu'il existe une pensée artistique, forcément on va dans le sens de l'art contemporain, c'est-à-dire de la manière qu'a l'art contemporain de penser.
C'est la raison pour laquelle je t'avais demandé, d'une part, pourquoi la philosophie, et d'autre part, les arts. Parce qu'il me semble effectivement que dans l'histoire de la culture, hein, de la culture occidentale, depuis Platon, comme tu l'as rappelé, finalement, il y a une tentation surplombante de la philosophie, et on est souvent agacé de voir, justement, une certaine cécité des philosophes face aux arts. Et là, effectivement, je trouve que vous vous posez d'excellentes questions. D'autre part, à un moment donné, outre que votre premier chapitre est très intéressant parce que il déploie l'histoire des arts, hein, en plusieurs périodes depuis l'Antiquité, mais chaque fois, ce n'est pas simplement informatif. Chaque fois, c'est l'occasion d'analyse et de réflexion qui sont extrêmement intéressantes et extrêmement utiles aussi. Hein. Alors, de même, vous vous demandez dans quelle mesure on peut dire l'art ou est-ce qu'il faut dire plutôt les arts. Vous vous posez la question de l'hétérogénéité des arts. Alors, vous ne citez pas un mot de Malraux, d'André Malraux, dans le musée imaginaire, qui justement propose de réunir dans un musée imaginaire, c'est peut-être le mot de musée qui vous a peut-être agacé, mais Malraux, justement, dans les années 50, aborde l'art ou les arts d'une manière justement extrêmement large, et il ne cantonne pas alors, comment est-ce qu'il faut dire les œuvres d'art ou les objets d'art? D'ailleurs, comme vous le dites, il n'y a pas que des œuvres et des objets. Il y a des performances, il y a d'autres processus artistiques. Donc, la question que l'on peut se poser, c'est dans quelle mesure peut-on réunir sous un concept général l'art avec une majuscule ou est-ce qu'il faut dire les arts?
Oui, ça c'est une très bonne question qu'on a vraiment abordée dans l'introduction, puisqu'on a intitulé l'introduction un difficile objet théorique. Pourquoi un difficile objet théorique? Ben, pour plusieurs raisons. D'une part, à cause même des types de discours que l'histoire de la philosophie a pu produire précisément sur l'art avec un grand A, c'est-à-dire que en particulier au XIXe siècle, avec l'idéalisme allemand, et j'irai encore au XXe siècle dans une certaine veine américaine de ce qu'on appelle la philosophie analytique, l'idée c'est précisément de penser la notion d'art et de répondre à la question qu'est-ce que l'art? Or, comment peut-on répondre à la question qu'est-ce que l'art? Comment peut-on répondre à quelque chose d'aussi général? Alors que, et ça c'est le deuxième versant de ma réponse, alors qu'on sait très bien que ce qui se joue au fur et à mesure précisément de l'histoire des arts, ce sont justement des pratiques de plus en plus singulières, et c'est donc une pluralité des pratiques artistiques. Une pluralité des pratiques artistiques, bien sûr, déjà, selon qu'on passe de la musique à la peinture, au cinéma, etc., mais une pluralité des pratiques artistiques à l'intérieur même, finalement, de chaque domaine artistique. Et là-dessus, ce que j'aimerais citer, c'est en fait Jacques Rancière, qui, donc philosophe français contemporain, qui a écrit un très beau livre qui s'intitule « Malaise en l'esthétique », qui revient, parce que quand on parle de réflexion sur l'art en philosophie, il y a deux termes, hein, il y a ce terme de philosophie de l'art, et puis il y a ce terme d'esthétique. Ce terme d'esthétique, il correspond vraiment à la racine grecque aesthésis, qui renvoie à tout le registre du sensible, de la sensation, et en particulier dans la tradition philosophique, il renvoie vraiment au XVIIIe siècle, et au moment où Baumgarten décide de créer vraiment une discipline, un nouveau domaine de la pensée qu'il nomme esthétique et qu'il définit comme pouvant être à la fois une science du beau, une science du sensible et puis aussi une science des arts. Mais ce que Baumgarten entend par la notion d'art, c'est largement à ce moment-là la rhétorique. Hein. Mais en fait, il y a quand même cette tentative de dire on va penser une discipline qui sera une branche de la philosophie et dans laquelle on pensera un rapport entre les arts, le beau et le sensible. Et donc, quelqu'un comme Rancière, dans Malaise dans l'esthétique, revient sur cette naissance de l'esthétique au XVIIIe siècle et sur le fait qu'elle est quand même largement liée à l'idée qu'il faut penser une certaine spécificité du sensible. Et donc l'idée de Rancière, c'est que finalement, c'est très difficile de définir ce que sont les arts à partir du XVIIIe siècle, à partir du moment où on les associe à quelque chose de très vaste, qui est l'apparition finalement d'un sensible propre. Et donc, ce que dit Rancière, c'est que finalement, on est un peu dans le registre de l'indétermination. C'est-à-dire, certes, les arts, c'est ce qui apparaît de manière sensible, mais dans des formes sensibles très différentes les unes des autres. Et donc, dès que l'on lit la question des arts, non plus à la question des règles, comme ça a été le cas, par exemple, au XVIIe siècle, ou même avant, avec cette possibilité, d'une canonique du beau, ou dès qu'on ne lit plus la question des arts à celle aussi de l'imitation, de la ressemblance au réel ou de la ressemblance à la nature, et qu'on dit ce qui se joue dans les arts, c'est l'apparition d'un sensible propre, et c'est des formes, finalement, qui apparaissent d'une certaine manière. Finalement, on est dans l'indétermination. Et donc, forcément, on est obligé de revenir vers les pratiques, de voir ce que sont les pratiques artistiques, avec à chaque fois leur mode d'apparition propre. Et du coup, on est toujours dans la pluralité. On est toujours dans la pluralité, on est toujours dans l'indétermination. Et donc, on ne peut plus tenir, en quelque sorte, un concept d'art avec un grand A, alors que précisément, c'était peut-être plus facile avant le XVIIIe siècle, c'était peut-être plus facile au moment, par exemple, au XVIIe siècle en France, où se met au point une académie, par exemple, de la peinture et de la sculpture, qui permet encore d'unifier finalement le domaine de la peinture et de la sculpture. À partir du moment où la philosophie, finalement, et la réflexion sur l'art devient comme ça plus indéterminée, elle devient plurielle, et d'une certaine manière, ça devient très difficile de parler de l'art avec un grand A. Et de ce point de vue-là, ce qui est très intéressant, c'est de voir comment au XXe siècle, de manière assez nouvelle, un certain nombre de philosophes ont rencontré, on pourrait dire, des artistes, des pratiques artistiques, des œuvres. Je citerai, par exemple, le très beau, mais il y en aurait bien sûr beaucoup d'autres, le très beau texte de Merleau-Ponty sur Cézanne, Le doute de Cézanne. Le doute de Cézanne, c'est bien l'irruption dans la philosophie de Merleau-Ponty d'une rencontre avec la peinture de Cézanne, avec la manière dont cette peinture définit un régime du sensible, dont elle institue un monde. Et que fait finalement Merleau-Ponty dans ce texte? Eh bien, il fait d'une certaine manière une description du monde, on pourrait dire, de Cézanne. Et cette notion de rencontre au XXe siècle, je crois qu'elle dit bien toute la nécessité du pluriel et le fait que précisément on doit toujours être en même temps dans un rapport singulier aux arts.
Tout à fait. Les arts ont toujours eu des fonctions et il est toujours intéressant de situer ces fonctions dans l'histoire des arts. À la Renaissance, en Italie notamment, apparaissent les premières galeries qui sont des galeries privées, hein, qui sont des galeries des aristocrates, ou des rois, du pape, etc. Et petit à petit, un public va naître. Jacques Rancière a écrit un autre livre qui s'appelle « Le partage du sensible » et qui est aussi très important parce que nous allons découvrir qu'un public apparaît petit à petit, alors qu'au départ, les œuvres d'art sont destinées, je dirais, à un public assez limité. On voit apparaître des théâtres publics, des opéras en musique, par exemple, à Venise au XVIIe siècle, là où vont être donnés les premiers opéras, les opéras de Monteverdi, par exemple. On voit apparaître aussi, au tout début du XVIIIe siècle, à Paris, la naissance des premiers concerts publics, le concert spirituel, je crois que c'est en 1725, etc. Donc il y a tout un public qui est invité, en quelque sorte, à accéder aux œuvres d'art. À Paris aussi, au XVIIIe siècle, au Louvre, il se tient un salon annuel, dans lequel, annuel ou tous les deux ans, dans lequel des œuvres, des artistes sont proposées au public, hein, et qui va s'exprimer. Et vous avez une très belle analyse d'ailleurs de ce que dit Diderot, des salons au XVIIIe siècle. Donc il y a un public qui se crée petit à petit, et je dirais que la part du public va être aussi de plus en plus importante, notamment à partir du XIXe siècle, d'autant plus que va se produire aussi ce qu'on pourrait appeler une marchandisation de l'art, c'est-à-dire un marché de l'art. Il y a aussi un marché de l'art qui s'institue, qui se crée au tout début du XIXe siècle, et forcément, cela modifie à la fois la perception des arts, des œuvres d'art, mais cela modifie aussi, je dirais, la conception même des œuvres d'art.
Oui, alors cette notion de public, elle est fondamentale à plusieurs titres. Alors, elle est fondamentale déjà dans la mesure où, dans le registre des arts visuels, et en particulier de la peinture, de la sculpture, elle est très liée dans ses transformations à la notion de musée. Et à la manière dont le musée, et ça c'est très vrai en France, finalement, dès la constitution des musées, alors à la fois avec ces galeries dans l'Ancien Régime, et puis après ces musées qu'on constitue dans un esprit d'éducation, etc., après la Révolution, ce qui est vrai, c'est que le musée met en œuvre un rapport au public, parce qu'il met en œuvre un certain regard sur l'art, et donc sur la peinture, sur la sculpture, mais tout comme d'ailleurs je pense que la salle de concert met aussi au point une certaine écoute sur la musique. Mais là je vais développer plutôt le paradigme du musée. Dans le musée, ce qui se joue, c'est la possibilité d'un regard, on pourrait dire, suffisamment détaché, d'un regard suffisamment désintéressé. Et ça, c'est quelque chose qui se poursuit encore aujourd'hui dans nos musées d'art moderne, mais dans nos musées aussi d'art contemporain. Le nec plus ultra, c'est toujours le dépouillement, hein, c'est toujours l'installation au milieu entre des murs blancs sur lesquels il n'y a rien, les grands tableaux de l'art moderne dans des salles où précisément on peut se recueillir et où rien ne doit perturber sinon le monde, bien évidemment, souvent. Mais on a vraiment la mise au point, d'un regard qui est l'idée d'un regard distancié et qui suppose finalement, d'une certaine manière, une certaine aussi maîtrise de son émotion, comme si l'émotion devait être une affaire intérieure. Et ce qui est très intéressant, c'est que en même temps, à peu près en même temps ou un petit peu avant que se met en œuvre donc ce regard dans les musées, eh bien les philosophes eux-mêmes ont essayé petit à petit de mettre en place la référence, et ça va bien avec l'idée du public, la référence au spectateur. Et donc au cours du XVIIIe siècle, on a vraiment une transformation de l'idée de ce spectateur de l'art, qui au départ est plutôt un spectateur informé ou un homme de goût, un connaisseur, voire un spécialiste, un expert. Et ça, c'est tout le mouvement de ce qu'on pourrait appeler les belles lettres françaises entre le XVIIe et le XVIIIe siècle, des personnes comme par exemple Dubos, mais des collectionneurs aussi comme l'abbé Leblanc, on pourrait citer aussi Batteux, qui ont vraiment cette idée que tout repose quand même sur un travail du goût, sur l'information, sur la possibilité de s'éduquer à l'art et de connaître l'art. Et puis tout d'un coup, on pourrait dire badaboum, il y a Kant qui arrive, qui ne connaît pas grand-chose à l'art, qui à Königsberg, au fin fond de la Prusse, n'a pas vu grand-chose, mais qui a un certain nombre de convictions et en tout cas produit une argumentation en ce qui concerne la possibilité d'une expérience esthétique, qui peut d'ailleurs tout autant être une expérience artistique, une expérience de contemplation de la nature. Et d'ailleurs, le vrai paradigme, c'est vraiment celui de la contemplation de la nature. Et donc, c'est toute une analyse de ce qu'on pourrait appeler la contemplation esthétique. Et Kant nous dit, eh bien, la contemplation esthétique, ça suppose de pouvoir cultiver une certaine forme de réflexivité. Ça suppose de pouvoir cultiver une certaine forme de distance et en quelque sorte un désintéressement. C'est-à-dire, c'est sortir précisément de tout ce qui fait la perception ordinaire et de tout ce qui fait que la perception ordinaire, elle est intéressée. De telle sorte que si on suit le point de vue de Kant, les pommes de Cézanne, je ne dois pas les regarder comme des pommes, mais je dois précisément les regarder au sens où c'est une composition, on pourrait dire, harmonieuse, qui suscite mon imagination, qui suscite ce que Kant appelle un libre jeu des faculté et qui d'une certaine manière fait que l'émotion que je peux ressentir va rentrer en moi et va produire une forme de réflexivité devant cette composition. Et alors c'est très intéressant parce que cette vision des choses chez Kant, forcément, ça bouleverse la question du public. Ça bouleverse la question du public parce qu'on a là un philosophe qui nous dit finalement, eh bien, d'une certaine manière, n'importe qui peut regarder de l'art ou peut regarder la nature, peut contempler, n'importe qui peut contempler à condition qu'il arrive à adopter un certain type d'attitude. Mais cette attitude n'est pas une affaire, finalement, d'expertise, de connaissance ou encore de disposition sociale, parce que c'est ça que ça veut dire aussi. C'est une affaire, finalement, strictement, on pourrait dire, singulière. C'est une affaire d'attitude que l'on adopte ou que l'on n'adopte pas, mais n'importe quel anonyme, d'une certaine manière, peut adopter cette attitude. Alors c'est très amusant parce que cette conception du spectateur et du public, elle est totalement reprise par exemple par quelqu'un comme Jacques Rancière. Jacques Rancière qui, du point de vue de la question du public dans l'art, justement, bataille beaucoup avec la sociologie de l'art et qui est vraiment quelqu'un qui récuse assez fondamentalement précisément la notion, par exemple, d'habitus dans la sociologie de Bourdieu. Vous savez que chez Bourdieu, il y a précisément cette idée d'une correspondance entre la classe à laquelle on appartient d'un point de vue social et culturel, et puis le type d'art qu'on pratique hein, en tant que spectateur. Il y a donc cette idée que n'importe qui ne va pas écouter les fugues de Bach, par exemple, qui a un goût, on pourrait dire, un goût pur, un goût noble, auquel on peut référer les fugues de Bach, et puis qu'il y a un goût vulgaire, par exemple, auquel on peut référer les valses de Strauss. C'est que ce sont précisément pas les mêmes éducations qui conduisent justement à ce qu'on peut écouter, à ce qu'on peut regarder. Et Rancière, lui, reprend vraiment la perspective kantienne et bataille là-dessus avec Kant, en reprenant d'ailleurs des documents historiques hein, issus du en particulier du 19e siècle, pour montrer que précisément, par exemple, dans les classes ouvrières, on peut trouver comme ça des individus qui tout d'un coup se rapporte à une œuvre et puis qui précisément eh bien rencontre justement cette œuvre et d'une certaine manière déploie la figure kantienne du désintéressement, c'est-à-dire du spectateur anonyme. Donc cette question du public, elle est fondamentale et je crois qu'elle est d'autant plus fondamentale dans l'art contemporain. Parce que ce qui est très étonnant dans l'art contemporain, c'est qu'on a quand même, je dis l'art contemporain, même s'il faudrait toujours dire les pratiques d'art contemporain, parce que l'art contemporain, c'est pas quelque chose, contrairement à ce qu'on nous dit parfois, c'est pas non plus quelque chose unifié. Ça dépend beaucoup des artistes, ça dépend beaucoup des courants artistiques. Mais ce qui est très étonnant, c'est qu'on a quand même affaire dans l'art aujourd'hui, je pense, d'une certaine manière, à une raréfaction du public, à un public spécialisé de plus en plus étroit. Et en même temps, on a affaire du côté des artistes à des tentatives de plus en plus importantes dans certaines installations ou dans certaines pratiques d'art contextuel ou d'art participatif pour précisément faire participer les individus. On a aussi de plus en plus du côté, je trouve, de l'art actuellement, des tentatives pour penser le social, pour penser le politique, pour penser les vies ordinaires des gens. Et en même temps, il y a donc de plus en plus souvent cette déconnexion entre le public, ce qu'on dit en général de l'art contemporain, comment il est lié finalement à une mondialisation du marché, à une classe internationale qui privilégie tel ou tel nom, telle ou telle œuvre, etc. Et comment de l'autre côté, précisément, les artistes essaient de plus en plus de se rapporter à ce qui fait notre quotidien. Et ça me paraît aujourd'hui comment retrouver un rapport finalement authentique au public et comment retrouver à travers l'art finalement la société d'une certaine manière.
Tout à fait. Et si l'art a été jusqu'au XVIIIe siècle, fondamentalement peut-être imitation, en tout cas pour les arts plastiques, l'art devient davantage expression, notamment au XIXe siècle avec le romantisme, et puis ensuite l'art devient davantage création, même si on peut discuter, et vous le faites d'ailleurs, vous discutez sur ce concept de création, sur ce qu'il peut avoir de mythique, mais à partir du XXe siècle, de Duchamp notamment, et vous étudiez justement le tournant que Duchamp introduit en 1914 avec les ready-made, on peut dire qu'aujourd'hui, il y a un aspect expérimental de l'art, alors qui est peut-être lié à la succession des avant-gardes, à une certaine course à l'originalité, peut-être, à moins que ce soit une course à autre chose, à une sorte d'authenticité. Et quelquefois, il est difficile de faire la différence entre ce qui est authentique de la part de l'artiste et ce qui est peut-être simplement imposture. Et là, le public, quelquefois, il me semble d'ailleurs que, je ne sais pas si c'est vous qui l'avez écrit ou si je l'ai lu récemment, quelqu'un qui se trouvait dans... Non, je l'ai lu sur Internet, ça, c'est ça. Quelqu'un qui avait visité un musée à Sao Paulo et une des personnes du musée lui avait reproché de vouloir toucher... une œuvre qui n'était peut-être pas une œuvre. Et cette personne, ensuite, avait montré que dans un coin, il y avait des balais ou je ne sais pas quoi, et avait ironisé en disant « Et ça, est-ce que c'est une œuvre ?» Alors, il y a tout un chapitre passionnant, d'ailleurs, dans votre livre, sur l'évolution du concept d'œuvre.
Oui, alors, ça, je veux bien revenir là-dessus, parce que ça me tient à cœur. Alors déjà, je dirais que dans la manière dont on a parlé d'un certain nombre de pratiques artistiques contemporaines, et je pense en particulier, effectivement, à certains artistes de l'Arte Povera, je pense en particulier à Alan Capro, je pense aussi à d'autres artistes que j'ai pas utilisé dans le livre, que Julia n'a pas utilisé non plus, mais par exemple comme Louise Bourgeois sur laquelle j'ai déjà écrit par le passé. Je pense que en tout cas on a eu cette idée qu'on a tenue jusqu'au bout, qu'on n'allait pas reprendre en tout cas l'idée, la référence de l'art contemporain aux impostures, et donc on a volontairement laissé de côté toute cette manière dont l'art contemporain peut être compris à partir du n'importe quoi, de l'imposture, du canular. On a volontairement laissé ça de côté en partant de l'idée que puisqu'on n'est pas dans quelque chose d'unifié, eh bien on allait plutôt enraciner notre réflexion dans des pratiques artistiques qu'on aime et qui pour nous ont un sens et qui produisent précisément un certain nombre de formes, même si bien sûr le statut de la forme est toujours problématique. Et donc c'est dans cette perspective en particulier qu'on peut comprendre aussi le chapitre sur l'œuvre. L'idée dans le chapitre sur l'œuvre, c'était de repartir, puisqu'on a toujours fait ça, on est reparti un peu des concepts de la tradition philosophique. Et donc, voyons ce qu'on en fait aujourd'hui par rapport à un certain nombre de pratiques. Le concept d'œuvre, c'est intéressant, parce que le concept d'œuvre, il est assez peu présent au XVIIIe siècle, et il surgit vraiment au XIXe siècle, d'une part à travers l'idée qu'on retrouve en particulier reflétée dans la littérature. On peut citer bien sûr le chef-d'œuvre inconnu de Balzac, mais on peut citer aussi l'œuvre de Zola, on peut citer de nombreux textes, à partir de l'idée que la question de l'œuvre, elle est liée à la question de l'absolu, elle est liée à la question de l'œuvre impossible à faire, et donc à cette notion de perfection. Œuvre et perfection. Et ça, c'est quelque chose de très présent. C'est quelque chose de très présent au XIXe siècle, ce qui peut d'ailleurs rendre impossible la production elle-même. Mais bref, il y a un idéal de l'œuvre, et cet idéal de l'œuvre, bien sûr, on le retrouve après dans la philosophie, et on le retrouve dans la philosophie, par exemple, chez un philosophe comme Heidegger, qui a précisément la perspective de penser ce que c'est que l'idée d'œuvre et de dire que la vérité de l'art, la seule manière de penser l'art, c'est de revenir à l'œuvre et de revenir aux vérités et en particulier au régime de vérité que produit l'œuvre. Parce que l'œuvre, c'est un dévoilement de la vérité. Quand il entend l'œuvre, il entend à la fois le temple grec, les vieux souliers ou les vieilles chaussures de Van Gogh, tel poème d'Hölderlin, donc un certain nombre, comme ça, on pourrait dire, de pièces de la tradition artistique très 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 connue. Et donc cette question de l'œuvre, elle devient essentielle dans le domaine de la philosophie à partir de l'idée que vraiment l'œuvre, c'est d'une certaine manière la seule manière de vraiment penser l'art. Et après, bien sûr, si on prend le registre des pratiques artistiques au XXe siècle et puis plus encore au début du XXIe siècle, on voit bien comment toute cette référence à l'idée d'œuvre, à la fois comme ce qui constitue dans un objet ou dans une pièce musicale ou dans un poème, comment cette idée d'œuvre, elle est précisément mise à mal. Comment l'art, petit à petit, un certain nombre de pratiques artistiques se pensent dans l'idée d'un parcours de l'artiste, dans la référence plutôt à ce moment-là à un processus, et à ce moment-là ce deuxième sens de l'œuvre, non plus l'œuvre comme objet, comme pièce unique, mais davantage l'œuvre comme un work in progress ou comme un processus, un parcours, une voie. Et forcément là-dessus, on se dit, bah, du coup, ça interroge la catégorie d'œuvre, mais est-ce qu'elle disparaît vraiment ? Et donc là-dessus, on a pas mal repris, entre autres, Alan Kaprow, forcément, et finalement cette définition de l'artiste comme un performeur et comme celui qui prétend vraiment, du coup, rapprocher l'art et la vie, rapprocher l'art et le monde ordinaire, être du côté, finalement, par exemple, d'un certain nombre de gestes qui sont précisément des gestes ordinaires, du côté d'un rapport, on pourrait dire, minimal aussi aux objets. Et en même temps, on s'est dit, eh bien, dans toutes ces entreprises où on rapproche l'art et la vie, il y a toujours un minimum de formalisation. Il y a toujours un minimum de formalisation de l'expérience. Sinon, précisément, ce n'est pas de l'art. Et donc, ce qu'on a défendu au bout du compte, et d'ailleurs là-dessus, on pourrait aussi situé. On pourrait aussi citer beaucoup d'autres choses, comme l'exposition à Berne à la fin des années 60 d'Harald Siman, finalement, quand il est commissaire d'exposition, sur cette idée « quand les attitudes deviennent forme ». Il faut toujours en art que les attitudes deviennent un peu des formes. Et donc, on s'est dit, bien finalement, certes, dans les pratiques d'art contemporain, il y a bien une remise en cause de l'œuvre, il y a bien, d'une certaine manière, un certain effacement de l'œuvre, mais en même temps, on devrait plutôt parler d'œuvres négatives, où on devrait plutôt parler vraiment de transformation, de réaménagement, de correction, parce que d'une certaine manière, le spectre ou le fantôme de l'œuvre est quand même toujours là, parce que tout simplement, il appartient à l'histoire des arts, et donc il est toujours comme ce spectre qui a toujours quelque part sa place, le retour du refoulé, en quelque sorte, on pourrait dire.
Parce que l'art, en définitive, toujours s'expose d'une façon ou d'une autre. L'artiste, au fond, montre quelque chose, que ce soit de la musique, que ce soit des images, que ce soit des mots, etc. Il y a toujours une forme d'exposition. Et donc, qu'est-ce qui va permettre de porter, je dirais, une appréciation, d'évaluer et, je dirais, d'apprécier ce que l'artiste expose. Il y a quand même toujours cette considération de la valeur qui s'impose à nous. Et alors maintenant, comment l'établir, cette valeur? Est-ce que est juge? Qui permet de juger? Est-ce que c'est l'artiste lui-même? Est-ce que ce sont les pairs, les autres artistes? Est-ce que ce sont les spécialistes des musées? Est-ce que c'est le public? Est-ce que ce sont les critiques d'art? Est-ce que c'est le succès public? Les foules qui se pressent, qui admirent, qui apprécient. Là, il y a une question qui se pose aussi sur le devenir aujourd'hui de l'art dans un régime, finalement, qui est un régime assez expérimental.
Alors, pour défendre cette notion de régime expérimental de l'art, on a essayé de montrer, en particulier dans le chapitre sur la question, on pourrait dire, de l'expression artistique, comment entre la Renaissance, on pourrait dire, à nos jours, ou même on pourrait même revenir à l'Antiquité, mais déjà de la Renaissance à nos jours, ce qui se joue avec, par exemple, la mise au point de la perspective et donc de cette perspective géométrique à la Renaissance, c'est l'idée finalement d'une création plastique qui passe par la notion d'harmonie. Et il y a bien tout un rapport à la question des formes harmonieuses. Après, petit à petit, ce qui se joue, et là on commence à rentrer dans l'expérimentation d'une certaine manière, c'est l'idée d'établir des dissonances, des dérèglements. Et donc la notion d'harmonie, précisément, d'une certaine manière, il faut introduire de la déformation, de la dissonance dans les formes. Et à ce titre, on pourrait citer beaucoup de choses, mais je crois que le point d'aboutissement de ces dissonances, de ces déformations, ça serait un artiste précisément comme Bacon, par exemple. Et puis ensuite, il y a aussi encore un autre paradigme, qui est un autre paradigme de l'expérimentation, c'est précisément celui de l'art abstrait, où là, la question elle passe davantage par le fait précisément pour l'artiste de pouvoir être directement dans l'expression de ses sensations, dans l'expression d'un sensible propre, dans l'expression du monde qu'il habite, etc. Donc l'expérimentation, je crois qu'en plus, au fur et à mesure que se déploie par exemple même une histoire de la peinture, je dirais qu'elle est de plus en plus liée à l'idée du dérèglement, en quelque sorte. Ça me paraît important. Toujours sortir des règles. Après, ce que je dirais sur cette notion d'expérimentation, Je dirais qu'elle prend actuellement un certain nombre de formes très plurielles. Ce que j'ajouterais en revanche sur la question du jugement, c'est que notre parcours, la voie qu'on a choisie, ça n'a pas été la voie justement de la question de l'évaluation des pratiques. On n'a pas voulu rentrer dans cette question-là, parce que cette question-là actuellement, elle donne souvent un regard très, très normatif et parfois d'exclusion des pratiques d'art contemporain. Donc nous, on est reparti d'un certain nombre de pratiques qui étaient intéressantes pour nos concepts, intéressantes pour ces concepts de la tradition philosophique, soit dans la mesure où d'une certaine manière elle les validait, soit parce que précisément elle les transformait ou elle les mettait radicalement en question. Donc on n'a jamais adopté, en tout cas dans ce texte, la posture finalement du jugement. Alors bien évidemment, quand on a abordé la question du spectateur, là on a bien abordé la question du comment les hommes peuvent-ils regarder l'art, comment regardent-ils l'art, comment se rapportent-ils à l'art. Mais en tout cas, on a vraiment laissé de côté après la question de l'évaluation.
Certes, mais il n'empêche que du point de vue de l'artiste lui-même, tout ce qu'il essaie n'est pas également réussi. Je veux dire que pour l'artiste lui-même, il y a une sorte, je dirais, de valeur qui s'impose à lui et qu'il recherche en quelque sorte. Il essaie, il essaie en permanence en quelque sorte, mais quelquefois, il reconnaît lui-même que bon, c'est moins réussi. Donc, il ne s'agit pas simplement d'évaluer de l'extérieur, de porter un jugement normative de l'extérieur, mais je crois que du point de vue de l'artiste lui-même, il y a aussi, je dirais, cette exigence, en quelque sorte, de valeur qui s'impose à lui.
Alors ça, en fait, on l'a pensé dans le chapitre sur l'œuvre, et en particulier dans la critique, on pourrait dire, de l'œuvre comme instantanée, et dans la manière dont l'esthétique se rapporte généralement à l'œuvre. L'esthétique philosophique, elle se rapporte généralement à l'œuvre, effectivement, comme quelque chose d'achevé, comme un objet, par exemple, unique, je ne sais pas, Guernica de Picasso, qu'on regarde et sur lequel on va pouvoir dire un certain nombre de choses. À partir aussi, ça va très bien avec la définition du spectateur contemplatif. Mais précisément, ce qu'on a fait là-dessus, on a repris un certain courant assez peu travaillé de la philosophie française, en tout cas en philosophie, qui commence avec un philosophe comme Étienne Souriau, bon, qui se termine après, enfin qui se poursuit après plutôt du côté de la sociologie avec quelqu'un comme Passeron, à savoir la tentative de penser l'œuvre du côté de l'instauration. Et penser l'œuvre comme instauration, c'est justement penser l'œuvre du côté du parcours de l'artiste, avec ses doutes, avec le fait de dire précisément à ce moment-là, je n'y arrive plus. Donc c'est vraiment penser l'œuvre comme un parcours, et y compris avec tout ce qu'elle peut porter précisément de doutes, de négatifs, d'incertitudes, de renoncements, etc. Et ça, c'est vraiment une des convictions fondamentales, c'est que l'œuvre, elle est du côté de l'instauration. Et forcément, en écrivant là-dessus, j'avais en tête Giacometti, et la manière dont Giacometti, dans son atelier, détruisait un bon nombre précisément de ces plâtres. Et j'avais donc en tête tout le travail de destruction de Giacometti. Or, le travail de destruction chez Giacometti, eh bien, ça fait bien partie précisément de son œuvre, et ça fait bien partie de son parcours. Et je dirais que du coup, effectivement, c'est une manière aussi de laisser une place au négatif, c'est une manière de laisser aussi une place à tout ce qui fait la fragilité, on pourrait presque dire la précarité ou la vulnérabilité de l'art et d'un parcours d'artiste qui peut d'ailleurs aller parfois jusqu'au renoncement. Et d'une certaine manière, on peut se dire, si on a en tête un livre qui est sorti il y a quelques années, comme le livre de Jean-Yves Jouannet, Artiste sans œuvre, ce que Jean-Yves Jouannet nous décrit, c'est tous ces artistes liés au début du XXe siècle, liées au mouvement Dada ou liées encore au surréalisme, on peut penser à Jacques Vacher, qui précisément prétendent déployer des parcours de vie, mais surtout, alors là, de manière très radicale, ne jamais produire d'œuvre. Eh bien, ces parcours-là, c'est sans doute des parcours du renoncement, d'une certaine manière. Et donc, je crois qu'avoir en tête cette idée, cette référence au renoncement, cette référence aussi, de toute façon, à la destruction, et le fait que la création, ça va aussi avec la destruction, c'est vrai que c'est vraiment fondamental, me semble-t-il.
On trouve dans cette perspective que tu es en train de tracer le mot de Beckett à propos de rater.
Oui, bien sûr, tout à fait.
Alors, votre conclusion, vous lui avez donné, enfin, vous avez choisi une citation en forme de, pour intituler votre conclusion, « L'art est ce qui rend la vie plus intéressante que l'art ». Alors, est-ce que tu pourrais commenter cette citation ?
Elle est impossible à commenter. Sinon qu'on peut dire que l'art, ça donne une intensité à la vie et que d'une certaine manière, ça rend précisément la vie plus intéressante que l'art. Voilà.
Bien, on peut terminer là.
Ouais.